Philippe Solers, vous êtes un habitué de ces rencontres milanaises où vous intervenez avec un brio, avec une efficacité qui font le plaisir de votre auditoire. Mais votre propre plaisir à Milan, comment pourriez-vous le dire ?
Ah, c'est un plaisir absolu, d'abord parce que j'aime beaucoup l'Italie, et en Italie particulièrement cette ville qui est finalement la ville de deux grands saints que j'aime particulièrement. Vous voyez que ma vision n'est pas tout à fait stendhalienne, encore que je me balade aussi avec Stendhal à Milan, mais je vais un peu plus loin que lui, c'est-à-dire que je ne me coupe pas de la tradition antérieure, qui est la grande tradition catholique, et je vais voir avec le plus grand plaisir Saint Charles Borromée au Dôme et Saint Ambroise à Milan. Ce sont deux saints considérables qui sont trop mal connus, et que j'ai décidé, non seulement pour m'amuser, mais pour rendre hommage à leur admirable génie, de faire un peu revivre.
Ces remarques que vous faites sur Saint Ambroise et autres saints...
Saint Ambroise est le patron de Milan, vous savez, c'est lui qui a droit à la reconnaissance des Milanais, c'est lui en quelque sorte qui est le patron de la ville, je crois même qu'il est reconnu comme tel de façon tout à fait officielle, et Saint Charles Borromée s'est rendu célèbre par son action lors de la grande peste de Milan, et donc ce sont là deux événements, à mon avis, majeurs de la vie milanaise.
À votre façon, vous vous mettez sous le patronage aussi de Saint Ambroise.
Absolument, c'est un peu pour aller à contre-courant des gens qui viennent à Milan et qui disent « Ah, la Scala de Milan, tout de suite, voilà, c'est dans la tradition du 19e, cette tradition du 19e me paraît un tout petit peu périmée, elle est très saturée, beaucoup de gens ont cet imaginaire 19e-miste. Comme j'ai décidé de créer comme ça une sorte de perturbation dans les références culturelles et de prendre une longueur d'onde plus grande, eh bien, disons que je me sens mieux au 3e ou au 4e siècle, et quelque part entre le 14e et le 16e, pourquoi pas.
Cette filiation, on pourrait dire, sanctifie, entre guillemets, vos interventions, au point qu'on se demande s'il ne faut pas dire maintenant Philippe Solers ou le nouveau théologien.
Non, je crois que il y a une partie évidemment d'humour et d'ironie dans cette mise en scène. Les interventions sur la théologie sont tout simplement destinées à faire apparaître d'abord une ignorance, tout simplement. Une grande ignorance, une ignorance énigmatique. Ces textes, cette aventure théologique ont été tout simplement refoulés depuis deux siècles par la mainmise, il faut bien le dire, scolaire, universitaire et ambiante de la philosophie et d'études de la philosophie. Donc c'est l'aventure des deux derniers siècles où je pense que, après tout, aujourd'hui, on en est arrivé à un tel ressassement de toutes les données philosophiques que, pour dégager un petit peu cela, je crois qu'il faut redéterrer ces choses théologiques. Et je le fais dans un but qui est à la fois d'interprétation analytique, c'est-à-dire, je crois que la théologie est très riche de renseignements pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la façon dont on a raconté les impasses sexuelles au cours des âges. Premier point, et là finalement, je crois que c'est une tradition que Freud lui-même a indiquée en écrivant son Moïse et le monothéisme. Et d'autre part, je le fais parce que je crois que s'agissant de l'art et de l'esthétique, on ne peut pas sérieusement s'intéresser à l'art et à l'esthétique dans une grande longueur d'onde qui couvrirait 2000 ans sans suivre les rapports étroits, très étroits qu'entretient l'art et la théologie pour la musique, pour la peinture et pour l'évolution de ce continent qu'il faut dégager parce que simplement je crois que l'ignorance est trop grande.
Mais en l'occurrence, dans le cadre de ce congrès dit de psychanalyse sur le semblant, ce n'est pas tellement l'art que vous rencontrez que la pensée de Lacan. Il y a donc là quelque chose comme un heurt entre théologie et lacanisme qui donne beaucoup à penser.
Vous savez que Lacan est quelqu'un qui, d'une part, s'est intéressé à la théologie, mais qui s'est intéressé aussi beaucoup à l'art. Et, par exemple, je peux vous citer la place éminente qu'il donne à une représentation comme la Sainte Thérèse du Bernin, une représentation sculpturale particulièrement baroque, tourmentée et présentifiant quelque chose qui est de l'ordre d'une jouissance qui est pratiquement indicible. Mais on pourrait remarquer aussi que Freud s'est toujours préoccupé de l'art et les réflexions de Freud sur Michel-Ange sont aussi d'une grande portée, je crois, pour nous.
Vous dites une jouissance indicible dans le cas de Sainte Thérèse, mais un indicible qui hurle d'une certaine façon.
C'est certain. Alors, le problème là, s'agissant de cette représentation de la jouissance, c'est d'essayer de montrer comment elle est prise dans l'évocation d'un discours sous-jacent. Par conséquent, là, je rencontre quelque chose qu'il faut bien appeler la tradition biblique et théologique. Quand Freud s'intéresse à Michel-Ange et au Moïse de Michel-Ange, qu'il prend à tort pour la représentation la plus plausible de Moïse, il lui faut très longtemps, vous savez, pour s'apercevoir que cette représentation de Moïse par Michel-Ange est tout à fait fantaisiste.
Qu'en fait, toute sa vie,
c'est dans une petite carte postale de la fin de sa vie, très fameuse, qu'il se rend compte brusquement que ce Moïse est un Moïse de fantaisie et que, après tout, le Moïse de la 18e dynastie n'aurait pas dû avoir de barbe, par exemple. Or, toute l'interprétation qu'il avait faite du Moïse de Michel-Ange reposait justement sur ses doigts entrelacés dans la barbe de cette fameuse statue. Par conséquent, on voit bien que pour des penseurs de la qualité et de la profondeur de Freud, et je dirais aussi bien de Lacan, les représentations culturelles ont fait symptôme des impasses ou des questions qui restaient pendantes dans la théorie analytique, c'est-à-dire de l'interprétation même. Autrement dit, je dirais, par exemple, que le rapport de Freud au judaïsme, qui reste en suspens, et encore à interpréter et à réinterpréter, se démontre parfaitement de cette relation très ambiguë à la mosaïcité de la représentation de Michel-Ange, qui quand même fait écran, d'une certaine façon, vers la culture qui lui reste encore inconnue. La culture de Freud, c'est la culture des Lumières, c'est la culture grecque et égyptienne. Son obsession est quand même celle-là, de se référer à ce qui était pour lui et goethéen et aufklärung et grec et égyptien, mais il a posé pour finir la question de ce que serait le statut d'un discours qui serait celui de Moïse. Bon, c'est un livre absolument capital, Moïse et le monothéisme.
Faisant remarquer que l'obsession archéologique, en quelque sorte, de Freud, dirigée vers l'Égypte et la Grèce, le conduit à faire de Moïse un égyptien.
Bien
ce
sûr.
Qui est vraiment
bien
une
sûr.
Proposition...
Bien sûr. Comme si, justement, le fait de sortir d'Égypte n'allait pas de soi. Or, sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, métaphoriquement, on peut dire que c'est une question de langage. C'est, selon la merveilleuse formulation de Joyce dans Ulysse, écrire la loi dans la langue des hors-la-loi. Comment se poser la question de quitter un sol d'écriture hiéroglyphique, un sol d'écriture cyclique, très matricielle, pour en quelque sorte noter la parole qui coïncide avec l'écriture même. Le semblant, je crois que c'est ce qui se passe comme discordance entre la parole et l'écriture. Il y a entre la parole et l'écriture quelque chose qui ne colle pas, comme si on ne pouvait pas entièrement écrire sa parole, comme si on ne pouvait pas entièrement parler l'écriture, et là, il y a quelque chose qui surgit, qui est de l'ordre de l'ambiguïté sexuelle. L'ambiguïté sexuelle se loge là. Autrement dit, quand vous prenez la Bible, vous voyez que lorsque Dieu se révèle dans l'Exode 3:14, quand Dieu choisit de dire son nom le plus élevé selon la Kabbale, qui est une phrase et non pas un nom, « Ayez Asher, ayez, je suis ce que je suis, je serai ce que je serai, je suis ce que je hais. » Je suis le sujet. C'est à travers donc un buisson ardent qui se consume sans se consumer que cette voix brusquement parle et énonce ce qu'il en est du sujet. C'est une révélation formidable car du point de vue de ce qui se fait entendre au niveau des dieux, eh bien je vous assure que vous chercheriez en vain, il me semble du moins, une formulation aussi étrange de l'identité de ce que Dieu peut dire de lui-même. Cette formulation est tout à fait extraordinaire. Alors, ça c'est la formulation, à proprement parler, la plus profonde du judaïsme. Eh bien, je ne sais pas si on peut dire que Freud l'a entendu, cette formulation. Et en tout cas, la question du judaïsme de Freud est une question très ouverte, vous savez, dont beaucoup de gens débattent de plus en plus, et qui correspond à une inquiétude, à une recherche très actuelle, après justement les 40 ans que nous avons connus après la mort de Freud.
C'est-à-dire qu'il y aurait en quelque sorte des voix hébraïques à l'oreille interne de Freud, qui pourraient être aussi bien hébraïques au sens littéral du terme, voir la dédicace du père de Freud à Freud en hébreu, mais aussi bien le yiddish, s'il est vrai qu'il a entendu parler yiddish. et enfin un hébraïsme qui serait transcrit en langue allemande et dont il aurait eu aussi connaissance.
Oui, oui. Donc des voix multiples. Wo es war soll ich werden, c'est quelque chose qui sonne un peu comme le Eye, n'est-ce pas? Là où c'était je dois advenir, je suis ce que je serai ce que je serai, c'est quelque chose d'assez proche dans la formulation même, n'est-ce pas? Et là, ça doit attirer quand même notre attention. Deuxième point, je crois que si cette révélation formidable de la Bible, qui forme le cœur brûlant, c'est le cas de le dire, de la Bible, cette voix qui parle à travers le semblant même, c'est-à-dire ce qui brûle sans se consumer.
C'est ainsi que vous définissez le semblant, oui, qui est un terme très très difficile, il faut bien le dire, à préciser.
Le terme de semblant vient, je crois, enfin, d'un séminaire de Lacan qui s'est appelé d'un discours qui ne serait pas du semblant. Il s'agissait de définir les conditions d'un discours qui, tout en faisant le tour de ce qu'il y a de semblant dans le discours constamment, serait quand même en retrait, donnerait donc les garanties d'une interprétation vraie. Il s'agit de la vérité. Il s'agit des rapports entre la vérité et le semblant. La vérité et le semblant, en théorie analytique du moins, c'est quelque chose qui doit, en principe, nous donner l'éclairage de ce qu'il en est, de la différence sexuelle, du malentendu de base entre les sexes, de la dissolution du fantasme originel de l'androgyne primordial qui vient là toujours reboucher à titre de fusion et de symétrie, quelque chose qui n'est nullement symétrique, nullement parallèle et nullement en état de fusion. Il y a donc là, dans ces problèmes de l'analyse, quelque chose qui, vous le savez, est repris sous la formulation de nom du père. Et cette histoire de père, c'est la découverte analytique, soit que on découvre qu'il a été tué, soit que on aille un peu plus loin, car la tragédie grecque forme en effet le sol de la découverte de Freud, mais au-delà de la tragédie grecque et de la référence gréco-égyptienne, il y a des textes énormes, formidables, très mal connus, qui ne parlent que de ça, et c'est les textes de la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire les textes de la Bible, proprement parlé, du Nouveau Testament, et la théologie tout entière, qui ne parle que de ça. De quoi ? Ben, qu'est-ce que c'est que les rapports étranges entre le père, le fils et ce troisième terme dont il faut bien essayer de se demander comment ils transitent avec les deux autres dans une égalité parfaite. Alors ça donne des tas de choses, des conciles, des hérésies ou définies comme telles par les dogmaticiens de l'époque. Enfin bref, toute une histoire, un méli-mélo incroyable dont je remarque simplement qu'il aurait été curieusement oublié. Depuis un certain temps, depuis 10 ans, encore toujours ces énigmatiques de dernier siècle. On aurait parlé d'autre chose, comme si tout ça n'avait plus aucune raison d'être et de se manifester. Or, c'est revenu à travers l'analyse. C'est l'analyse qui a remis tout ça, subrepticement, à travers le sommeil, les rêves, et tout simplement la passion de l'hystérique, qui ne se laisse pas faire au cours des âges, et qui remet ça sur le tapis, tout simplement parce qu'elle remanifeste sans cesse l'admirable hystérique, qu'il y a quelque chose dans le sexe qui ne va pas. Et ce qui ne va pas dans le sexe, eh bien ça se dit de cette façon très énigmatique, dans la discordance entre le nom et le signifiant, si vous voulez, entre la parole et l'écriture.
C'est Moïse et le monothéisme, et dans une seconde étape, finalement vous suivez une linéarité historique assez stricte, on sort du monde, ou on tente de sortir du monde, et cette sortie du monde, vous la faites réaliser ou advenir par une figure de femme.
Oui, c'est tout à fait logique, puisque le problème étant d'interrompre le cycle, il s'agit quand même de produire, traitons ça comme un problème de mathématiques, il s'agit d'introduire quelque part une discontinuité radicale. Alors, je ne parle pas de l'existence ou de la non-existence des phénomènes, là. Je parle de la logique, ou plus exactement de la théologie, qui est une logique pas comme les autres, parce qu'elle produit des êtres de langage tout à fait stupéfiants, qui donnent lieu à des paradoxes et d'une insondable profondeur. Et c'est-à-dire qu'on peut commenter indéfiniment, et ça donne ce qu'on appelle en général des religions. Et à l'intérieur des religions, des contre-religions, et des scissions, et des contre-scissions, etc., etc. C'est aussi intéressant que ce qui arrive au mouvement analytique, qui lui-même reproduit en petit ce qui s'est passé dans les grandes fondations de religion, ou de ce qui est arrivé au marxisme, ou se reproduit en petit ce qui est arrivé aux fondations de religion, aux tentatives de fondation de religion, ce qui semble nous dire quand même à travers l'expérience historique qu'il n'y aurait peut-être qu'une seule grande question, c'est ce qui se passe au niveau des fondations dénoncées religieux, des forces d'énonciation qui tentent de faire religion, autrement dit, de nouer ou de dénouer le lien social lui-même en tant qu'il reproduit les corps que nous sommes, vous et moi, ici, en train d'en parler à une époque comme ça, vers la fin du XXe siècle. Alors, eh bien, si vous voulez sortir du monde, il faut donc que vous fassiez un trou dans ce monde.
En disant sortir du monde, on veut dire aussi, sans doute, entrer dans le monde, ou reconnaître le monde comme tel, en sortant de ce fameux cycle matriciel.
Il s'agit de laisser penser qu'un trou est ou pas possible, n'est-ce pas ? Alors, un trou dans quoi ? Précisément, dans ce fameux élément féminin, qui quand même, comme on le constate à longueur de temps, et à tour de bras, reproduit les questions que nous sommes, et les animaux parlants que nous sommes. Par conséquent, un trou dans l'image de cette grande déesse primordiale qui serait la femme. La femme existe-t-elle ? Tout le monde est porté à répondre oui. Pourquoi ? Parce qu'on s'imagine que Dieu et la femme, c'est la même chose, dans la mesure où, en effet, comme l'a dit Lacan, elle pondrait indéfiniment ce que nous sommes. Et c'est le cas de le dire, nous en sommes chus, en quelque sorte. Bien. Alors, ce trou est-il possible ? Eh bien, voilà des gens qui, tout à coup, vous disent, eh bien, il suffit de prendre ce sujet hébraïque...
À savoir, Yahvé, je suis celui qui est.
Attention, Yahvé n'est que le second nom, le tétragramme imprononçable, littéral n'est que le second nom divin. Le plus élevé est je suis ce que je suis ou je serai ce que je serai. Et le troisième, c'est Elohim, et vous voyez que c'est seulement en troisième position, ce qui est très étrange, que Dieu, au pluriel, crée le monde. Il ne crée le monde qu'à travers son troisième nom. Ce qui, d'ailleurs, est une façon de laisser penser qu'il n'y a pas que le monde dans lequel on barbote. Il y a quelque chose qui est au-delà.
Elohim, pluriel de El.
Voilà,
nom de Dieu.
C'est ça. Alors, la théorie des noms divins, évidemment, c'est très compliqué. Le coup de génie trinitaire consiste à formuler en un nœud les transactions diverses qui peuvent se passer entre ces noms. Bon, ça serait trop long à expliquer. Mais enfin, comment produire un trou ? Voilà donc des gens qui vous disent, vous prenez ce sujet hébraïque tel qu'il est révélé là, sujet parmi les sujets, déclarant de lui-même qu'il est ce qu'il est, à la première personne, et vous le chargez au maximum du verbe, et au commencement, etc. Et ça va donner un corps qui est donc radicalement différent de tous les autres, qui transite par la génération. Bon, ça s'appelle, en effet, l'histoire de l'incarnation. Cette histoire est mal pensée, en général, et les théologiens ont le plus grand mal à la penser. Il n'y a qu'à voir les circonvolutions de saint Thomas et des autres. Le meilleur étant pour moi, pour mon goût personnel, Duns Scott, pour lequel j'ai une grande admiration, de même d'ailleurs qu'un poète anglais comme Gerard Manley Hopkins, qui a compris qu'il y avait chez Duns Scott, en effet, la formulation du sujet de la poésie sous sa forme la plus radicale. Mais ça, c'est une autre question. Eh bien, vous avez tout simplement cette hypothèse folle, qui paraît absurde à tout le monde, et dont tout le monde a l'habitude de ricaner grassement, pour la bonne raison que ça paraît être vraiment la chose la plus ridicule du monde, et c'est pour ça que moi ça m'intéresse, car les choses les plus ridicules du monde sont porteuses précisément d'une vérité peut-être très profonde. Et il faut s'habituer à que fausse soit tenue par nous toute vérité qui ne fait
vous
pas rire.
Vous êtes tout à fait dans l'axe du Witz freudien.
Oui, absolument. Eh bien, voilà donc un corps qui naîtrait d'une parole et qui surgirait au monde pour y vivre, puis y mourir, et puis y ressusciter. C'est pas bon, opération logique qu'on peut détailler, mais qui précisément ferait une effraction qui ne serait pas du tout de l'ordre sexuel, qui ne serait pas du tout de l'ordre de la défloration, de la pénétration, etc., et qui, en plus, ô merveille du point de vue analytique, tranche une question qui reste indécidable dans l'imaginaire animal parlant, pour la bonne raison que c'est ce qu'on appelle, vous savez, la théorie cloacale infantile, c'est-à-dire la confusion de ces deux orifices que sont le vagin et l'anus, ce qui était l'obsession, comme vous savez, de Lou Andreas Salomé, qui, apporté à Freud, très bénévolement et avec beaucoup de charme, sa théorie du vagin loué à l'anus, et qui est en effet une question fondamentale, car rien ne prouve que l'animal parlant sache distinguer, femme comprise, ces deux orifices. Rien ne le prouve que finalement la gestation et la reproduction elle-même ne soit pas toujours reprise imaginairement comme une sorte de déchet. Et bien là, vous avez un corps né d'une parole et qui fait le seul trou possible dans cette affaire.
Vous mettez avec beaucoup de netteté en lumière le discours, entre parenthèses, théologique. Vous évoquez par ailleurs ce discours analytique axé sur la figure de Lou Andreas Salomé et de sa célèbre formule. Ce qui fait problème pour nous, c'est la liaison que vous pouvez faire, le passage du discours analytique avec cette conception infantile des deux orifices confondus au discours théologique et à la figure de la Vierge.
Alors là, toute la question est de savoir si le discours analytique peut nous amener à la compréhension de ce qu'il en est des rapports du père et du fils. C'est pas sûr. Il est possible qu'après tout, toute la théorie analytique, qui rallumerait, sans le savoir, le continent théologique d'une façon entièrement nouvelle et subvertie, faisant apparaître ainsi une vérité nouvelle, il est possible que ce discours ait été fondé, je vois même beaucoup d'éléments qui permettent de l'affirmer, autour d'une question très proche, mais différente, qui est le rapport de père à fille. Après tout, Œdipe, en deux parties, roi et à colonne, c'est la question de savoir ce qui se passe entre un père et une fille. C'est pas tellement important qu'Œdipe ait tué son père, il me paraît plus important de comprendre qu'il a couché avec une mère qui restait la fille de son père. Ce qui se représente à colonne, avec le fait que le vieil Œdipe est conduit par sa fille au trou. Toute la tragédie grecque et tout ce qui se passe du côté de l'Égypte grecque, comme on le voit à maintes reprises dans les grands discours de l'Antiquité, je pense aussi à Lucrèce qui est préoccupé par quoi ? Que la religion, ça soit qu'un père puisse faire égorger sa fille, Iphigénie, pour gagner une guerre, n'est-ce pas ? Agamemnon, Iphigénie, cette affaire qui troublait tellement Racine encore. Tout le siècle classique est dans la lignée de cette représentation des rapports de père à fille. C'est même probablement une chose qui a été encore assez mal étudiée. Et je vois de forts symptômes de cette impasse dans la théorie analytique, y compris chez Freud lui-même, par rapport à sa fille, je n'ai pas besoin de vous en dire plus là-dessus. Donc, il est fort probable que, pour trouver ce qu'il en est, des rapports de père à fils, c'est-à-dire d'un fils et d'un père, qui sont à égalité de substance, de rôle, de fonction, avec ce fameux troisième terme, que vous pouvez appeler comme vous voulez, Saint-Esprit, je veux bien, mais ça peut être aussi bien le Verbe, le Souffle, tout ce que vous voudrez. En tout cas, quelque chose qui ressort d'une définition du langage tout à fait différente que le langage de la communication que nous employons en ce moment, il est possible que l'analyse ne puisse pas aller jusque-là. Ce qui nous expliquerait pourquoi Freud bute d'une façon admirable sur la question du monothéisme, pour terminer, et pourquoi Lacan bute aussi sur la question de la théologie pour finir. Ce serait là alors, si mon hypothèse est juste, quelque chose qui devrait nous avertir que grâce à cette découverte, on pourrait enfin distinguer ce qu'il en est de la religion comme bouchage de trou et de la religion comme trou. C'est-à-dire un affrontement très profond dans le discours théologique ou mystique même, entre les contre-investissements d'apparence, de fétichisation, d'idolâtrisation, et au contraire, quelque chose de très fondamental là, qui ouvrirait sur, justement, une relation impensable et hors monde du langage avec lui-même.
Alors, on pourrait voir un écartèlement à l'intérieur du discours théologique, entre un discours théologique qui chercherait à boucher le trou, qui serait donc, on pourrait l'appeler performateur, et un discours théologique qui, lui, chercherait à accentuer le trou, qui serait un discours perforateur, si on veut faire un balancement entre les deux.
Absolument, vous avez d'ailleurs cette controverse à longueur de temps dans l'histoire de la théologie, c'est même surprenant à quel point les controverses se passent autour de ça, et des controverses, vous savez, qui n'ont pas du pur bavardage, qui donnent des conséquences historiques et politiques énormes. N'est-ce pas? Vous prenez la controverse entre Dominicains et Franciscains, qui a l'air comme ça, une petite plaisanterie, quelque part au XIIIe siècle, mais c'est ça a des conséquences énormes. Donc là encore, il y a toujours deux voies, avec des affrontements très sérieux. Et bon, il faudrait en parler longuement. C'est la grandeur de Dante de nouer, au début du XIVe siècle, cette question de façon très rigoureuse, mais la question a été laissée un tout petit peu en vrac depuis, n'est-ce pas? La philosophie s'est imposée au détriment de la théologie, tout le monde a cru que c'était très bien et l'aube d'un nouveau monde, et la philosophie, je pense, a produit tous ses effets. Et vous savez, vous prenez Heidegger comme point final, ou Sartre si vous préférez, selon les goûts, mais je ne pense pas que la philosophie puisse aller beaucoup plus loin maintenant. Et d'ailleurs, elle le sent si bien, la philosophie en elle-même, dans son discours, que c'est une crise probablement sans précédent, et c'est pas pour autant la fin du monde. Vous savez, on peut très bien avoir des époques sans dominance du discours philosophique, c'est simplement, probablement, une refonte beaucoup plus globale qui nous vient précisément de cette petite affaire analytique qui était la peste dans la philosophie.
Et donc la peste lancée par Freud relance, à votre sens, le discours théologique, ouvre les perspectives d'une nouvelle théologie,
nouvelle théologie, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme autour de tout ça, et puis il y a des théologiens qui, loin de vouloir faire un trou dans la théologie, sont très pressés de l'anthropologiser. Vous savez qu'il n'y a rien de plus déprimant que de voir les différentes performances de Kung et compagnie, n'est-ce pas, qui sont très prônées par l'esprit progressiste ou disons réformateur ambiant, alors que c'est tout simplement une chute anthropologique de la théologie, et tout le monde d'applaudir si la théologie s'anthropologise. Or, c'est tout à fait le contraire, je crois, qu'il faut faire. C'est retrouver la force de subversion de la formulation théologique, qui est, à mon avis, du même ordre que la subversion analytique. C'est-à-dire quelque chose qui, loin d'anthropologiser, nous fait sortir de ce leurre qu'est la moïsation, le moi, n'est-ce pas, et l'accès au sujet, à sa pointe énigmatique, encore une fois, probablement hors du monde, pour des raisons de pointe du langage qui échappent à la logique, mais qui peuvent très bien se formuler en théologique, à condition de mettre ce théos, pas exactement comme l'avait pressenti Bataille dans sa tentative d'athéologie. Vous savez que Bataille est là un précurseur, à mon avis, et j'y suis très attaché, moi, personnellement, à l'œuvre de Georges Bataille, mais quelque chose qui reprendrait le problème dans une expérience, évidemment, où le sujet qui parle s'implique complètement.